Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
1　Waléza et Jaruzelski.
La publication d'un dossier détaillant la collaboration présumée de Lech Walesa avec les services secrets communistes, ainsi que les déclarations critiquant Walesa venant de la part de certains membres du gouvernement polonais, ont transformé une manifestation en défense de la démocratie en une manifestation en défense de Lech Walesa.
Le pouvoir de la Pologne montre chaque jour qu'ils ne sont pas des démocrates. Et nous savons qu'est-ce que c'est la démocratie. Parce que nous avons battu pour la démocratie pendant 20 ans.
Revenu au pouvoir, le PiS ultra-conservateur de Kaczynski a multiplié les coups d'éclat. Perquisition chez la veuve de Jaruzelski, celui qui proclama l'état de guerre en décembre 1981. Perquisition chez la veuve de son ministre Kiksak, de celle-ci. Les nouvelles autorités sont revenues avec des archives qui documentent plus abondamment les relations de collaboration qu'aurait eu Walesa, jeune ouvrier des chantiers navals de Gdansk, avec la police politique. Cette relation était connue depuis longtemps. De cette emprise consentie en 1970, Walesa s'est peu à peu dégagé jusqu'à pouvoir la rompre en 1976. C'est plus tard, en 1980, qu'il devient le leader que l'on sait à la tête de Solidarność. Mais voilà, la Pologne, selon Kaczynski, doit renvoyer dans les ténèbres extérieures les hommes qui, d'un côté et de l'autre, ont ménagé les transitions de la décennie 1980. La dénonciation de Walesa en accompagne et en annonce d'autres. Si Walesa n'a été qu'un agent de la Nouvelle République dont il a été le premier président en 1990, celle-ci, la Nouvelle République, n'est qu'un théâtre de marionnettes manipulé par les anciens communistes et les commissaires de Bruxelles. Il faut la remplacer par un pouvoir enfin pur, préserver des migrants qui apportent des maladies, des riches qui trahissent et des cosmopolites qui prônent le mélange des races. Certains partisans de Kaczynski disent qu'il faut aussi se méfier des cyclistes et des végétariens, alors qu'il est, on ne sait pas bien pourquoi, mais des dossiers encore secrets l'expliqueront sans doute un jour.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jacques Dimet, bonjour.
Bonjour.
Qui est maintenant l'animateur des veillantes éditions Helvétius, du nom d'un philosophe du 18e auquel vous êtes très attaché. Vous habitez d'ailleurs rue Helvétius dans une ville de la région parisienne. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous invite aujourd'hui. Mais vous étiez en poste à Varsovie, des années 1980 aux années 83. Il faut que vous disiez pour qui.
Oui, alors j'étais l'envoyé spécial permanent, comme on disait à l'époque, du journal L'Humanité,
et qui était, à l'époque aussi,
quotidien, organe central même du Parti communiste français. Et en même temps, parce qu'on avait une double casquette, j'étais aussi le représentant du comité central du PCF sur place.
Eh ben dites donc, il paraît qu'il y avait une maison du PCF à Varsovie.
Il n'y avait pas une maison du PCF à Varsovie, mais il y avait un endroit où des dirigeants du parti se rendaient régulièrement et qui avait été baptisé avec humour par les dirigeants polonais comme étant la maison du PCF.
Donc vous étiez aux avant-postes et votre témoignage va être intéressant. Je vais d'abord faire allusion aux événements de 1970 dont vous allez me dire que vous ne les avez pas vécus sur place mais qui annoncent ce qui va suivre. Le jeune Walesa, on l'accuse du côté des autorités nouvelles de Varsovie d'avoir travaillé avec la police politique alors qu'il était un jeune ouvrier de Gdansk. C'est à Gdansk, au chantier naval, et à Gdynia, au chantier naval sur la Baltique, qu'éclatent en 1970 des émeutes largement provoquées par la hausse des prix. Les soldats tirent dans la foule des ouvriers qui sortent de leur train pour rejoindre les usines. Le général Jaruzelski, ministre de la Défense, aurait donné l'ordre de tirer. Il y a eu combien de morts?
Alors officiellement, le chiffre est d'une quarantaine, 44 je crois. D'après moi, des informations que j'ai eues à l'époque de la part d'un dirigeant du Parti Ouvrier Unifié polonais, lui estime à plusieurs centaines.
Alors vous étiez sur le fil du rasoir pour qu'on comprenne bien la situation qui est la vôtre en 1980. Je vous propose qu'on entende les commentaires de la radio communiste officielle en langue française de Varsovie après les événements de décembre 1970 à Gdansk. C'est toujours le même vocabulaire un peu emmêlé, difficile à tenir, qu'on retrouve d'une décennie à l'autre.
Tous les journaux publient ce matin en première page les informations sur les remaniements à la direction du Parti ouvrier polonais unifié, décidé hier à la 7e session plénière du comité central, ainsi que le texte du discours prononcé par le nouveau premier secrétaire, Edward Gierek. S'adressant à tous les travailleurs dans une allocution télévisée, Edward Gierek a déclaré entre autres « Les villes du littoral, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Elbląg, ont été le théâtre de manifestations ouvrières, de désordres et d'échauffourées. Des hommes ont péri. On ne peut pas ne pas se poser la question pourquoi cela se produit. Il est de notre devoir, du devoir de la direction du parti et du gouvernement, de donner au parti et à la nation une pleine réponse à cette question. Il y a en effet à la base de la situation actuelle dans notre pays des raisons résultant de difficultés réelles. Mais il en est aussi qui ont découlé de conceptions irréfléchies dans la politique économique. Les problèmes que nous abordons, a dit le premier secrétaire du parti, concernent toute la nation, les membres du parti et les sans-partis, les croyants et les non-croyants.
Le nouveau premier secrétaire de 1970, nommé après les émeutes, Gierek, dit « il y a des conceptions irréfléchies, il faut trouver des solutions de rénovation du socialisme ». Quand vous arrivez en 1980, 10 ans après, la situation ne s'est pas améliorée, économiquement en particulier, et ce sont toujours les mêmes moulins à prières qui fonctionnent.
Oui, la situation a quand même évolué d'une certaine mesure, à partir notamment de l'élection de Jean-Paul II comme pape en 1978. Donc en 80, on est dans une situation un peu nouvelle où la société polonaise prend en fait conscience de sa force, ou a pris conscience de sa force, lors de la première visite de Jean-Paul II en 78, où ce sont les églises qui ont fourni les services d'ordre, et donc avec beaucoup d'ouvriers. Donc à partir de ce moment-là, la société polonaise se rend compte de sa force, mais en même temps, ce que vous dites est vrai d'un point de vue politique du parti. Lui, les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire que malgré le volontarisme de Gierek, la situation économique est difficile. Il y a une pénurie de logements et la société n'avance plus.
À peine arrivé à l'occasion d'un voyage de Brejnev, qui est toujours au pouvoir en principe, à Moscou, vous vous retrouvez en août 1980 devant un nouveau grand mouvement à Gdansk. Alors comment fait l'envoyé spécial permanent de l'Humanité pour raconter le début d'une grève immense, de semaines d'occupation des usines par 6 ou 10 000 ouvriers au chantier naval de Gdansk dans une atmosphère qui doit être assez difficile à décrire à l'usage de vos lecteurs de l'Humanité?
Oui, difficile, oui et non, parce que je me suis retrouvé d'abord dans une situation qui est complètement nouvelle et inédite dans un pays socialiste, et inédite aussi pour un correspondant de l'Humanité, c'est-à-dire avec une grève générale, d'abord dans la région de Gdansk, qui s'est étendue après à l'ensemble du pays. Mais je suis journaliste à l'Humanité, l'Humanité est un quotidien, et donc il faut rendre compte de l'actualité tous les jours. Et je pense que c'est le fait de rendre compte de l'actualité qui me sauve, qui nous sauve en quelque sorte. Quand je dis nous sauve à la fois moi et à la fois l'Humanité. Parce que à l'époque, si on a pu être critiqué sur des points de vue politiques qu'on abordait lorsqu'on abordait la question de la grève, sur le plan factuel, en tout cas, aucun reproche nous a été fait. Mais comme je dis, on ne pouvait pas faire autrement parce que les événements allaient tellement vite qu'il fallait absolument les suivre.
Vous aviez un office quotidien à suivre, comme d'ailleurs les ouvriers de Gdansk, parce que il y avait une messe tous les jours chantier naval.
Il y avait une messe tous les jours qui rassemblait jusqu'à un millier de personnes. Donc j'ai assisté aux offices chaque matin pendant la durée de ma présence au chantier. Et surtout, c'est la participation aux discussions avec l'ensemble des ouvriers, soit à l'intérieur de la salle où se réunissait le comité interentreprise de grève, le MKS, qui donna naissance après à Solidarité, qui était dirigé par Lech Wałęsa. Et d'un autre côté, dans le chantier Lénine, où le MKS avait demandé aux grévistes de ne pas quitter les chantiers, où il y avait plusieurs milliers d'ouvriers qui étaient rassemblés sur les pelouses, etc., et avec qui on discutait.
Des accords sont signés, retransmis, comme la négociation à la télévision. Lesquels accords reconnaissent la possibilité de syndicats indépendants qui vont se constituer sous l'égide de Solidarność et concerner d'ailleurs d'autres secteurs du monde du travail que celui des ouvriers. Néanmoins, l'année 1981, la deuxième de votre présence à Varsovie, Jacques Dimet, est marquée par des difficultés constantes. Les directives du gouvernement ne sont peut-être pas appliquées par les directeurs d'usine, par les autorités locales du parti. Les syndicats sont de plus en plus mécontents et la situation économique est labyrinthique.
Oui, parce qu'on a une évolution aussi du rapport de force. C'est-à-dire que au départ, au moment de la grève d'août 1980, la première mouture des accords parle de la possibilité pour les syndicalistes de Gdansk de s'intégrer aux syndicats officiels qui seront des syndicats démocratiques. Les membres du MKS veulent évidemment aller plus loin. Donc on obtient la création d'un syndicat et en fait du pluralisme syndical. Mais ensuite, il y a eu toute une bataille politique, et pas seulement politique, des fois avec des violences policières, pour la légalisation de Solidarité au mois de septembre.
Et puis, plane la menace de troubles encore plus graves, d'une guerre civile, dit-on d'un côté et de l'autre. Qui dit guerre civile dit possibilité d'intervention pour les soviétiques qui attendent peut-être le déclenchement de ce mot pour refaire la même chose qu'en 56 en Hongrie, qu'en 68 en Tchécoslovaquie. Jaruzelski, qui va se retrouver maintenant le premier aux manettes, réfléchit après coup sur la marge de manœuvre que les uns et les autres avaient pendant cette année 81.
Général Jaruzelski, pensiez-vous déjà, avant l'hiver 81, que l'état de guerre était inévitable ?
J'avais entrepris des efforts de diverses sortes pour ne pas en arriver à cette solution extrême. Mes prises de position publiques sont connues en cette matière, notamment celle du 27 novembre au plénum du comité central, où j'ai parlé de cette chance d'entente qui existait toujours. Et j'ai appelé à cette entente. Et je savais avoir l'appui de l'Église. La décision, je l'ai prise à 14h le samedi 12 décembre. Les sentiments qui m'accompagnaient alors étaient des plus amers, des plus tristes. Je me suis trouvé face à la décision la plus difficile de ma vie.
Alors, est-ce qu'il fallait faire un coup de force au vu de la situation internationale, de l'affrontement structurel des deux blocs et de la tension à l'intérieur de la Pologne, où il y avait d'un côté Solidarność qui représentait un peu toutes les couches de la société, et puis de l'autre, l'appareil du PC qui tenait?
Oui, alors la référence en fait à l'Union soviétique qui a été avancée par Jaruzelski, moi me laisse, pour tout dire, dubitative. C'est-à-dire que je ne pense pas que les soviétiques avaient l'intention d'intervenir en Pologne.
Jaruzelski dira après coup, ils ne me l'ont jamais signifié explicitement, mais je le pressentais.
Oui, qui a eu des pressions soviétiques, des pressions visant à faire croire qu'il pourrait intervenir. Je pense que oui, ça fait partie, si on peut dire, du jeu politique de l'époque. Mais en ayant eu des discussions avec des responsables de l'ambassade soviétique et des soviétiques de passage à Varsovie à cette époque, c'était pas leur préoccupation première. N'était pas, ils voulaient éviter une désintégration de la Pologne, mais je ne pense pas qu'ils souhaitaient, ou en tout cas qu'ils envisageaient une intervention militaire, parce que l'armée polonaise était la deuxième armée du pacte de Varsovie. Et il y a eu un précédent. Le précédent, c'était en 1956, où Khrouchtchev débarque sur l'aéroport de Varsovie. Il est accueilli par Gomulka, qui vient de reprendre le pouvoir. Et Khrouchtchev lui dit, en gros, si les événements ne s'arrêtent pas maintenant, on sera obligé d'intervenir. Et Gomulka lui répond, si vous intervenez, je fais appel à l'armée polonaise, et vous savez ce que ça veut dire. Et Khrouchtchev repart. Donc il y a, sans être péjoratif du tout, la Pologne n'est ni la Hongrie, ni la Tchécoslovaquie au niveau de la puissance, et notamment de la puissance militaire. Par contre, il y a eu des pressions soviétiques indéniables. En septembre 80, si je me souviens bien, il y a une discussion téléphonique entre Brejnev et Stanislav Skania, qui est devenu premier secrétaire du parti, dans lequel Brejnev lui dit « Vous n'avez pas respecté les engagements que vous avez pris devant moi en Crimée, et vous ne faites rien pour empêcher Solidarité de prendre le pouvoir. »
Le coup d'État, le coup de force, la déclaration de l'état de guerre, 13 décembre, ça veut dire, pour vous qui êtes devant votre téléviseur, un présentateur du journal en uniforme, ça veut dire, pour vous qui voudriez aller au spectacle, la fermeture des théâtres, pour vous qui utilisez le téléphone, la censure des conversations. Et ça veut dire, pour vous, journaliste, la volonté de savoir comment la population réagit à la mise en résidence surveillée de tous les dirigeants de Solidarnosc et à la censure qui s'abat.
Alors d'abord, la proclamation de l'état de siège, parce que en polonais, état de guerre, est assez brutal. Donc c'est dans la nuit, les chars prennent position dans Varsovie, où il fait à cette époque moins 20 degrés. Quand même, des braseros avec des militaires sont installés à tous les grands carrefours. Donc des chars patrouillent dans les rues et le téléphone n'est pas seulement contrôlé, il est complètement coupé. C'est-à-dire que Varsovie est complètement isolée du reste du monde. Les communications téléphoniques ne fonctionnent plus, les telex ne fonctionnent plus. On n'a plus le droit de circuler en voiture, il nous reste que le fait de pouvoir circuler à pied, malgré... Mais il y a aussi un... Comment dire
Qu'est-ce que vous allez voir, vous, les ouvriers?
Oui, alors moi, au matin, je vais voir... D'abord, je vais au centre de presse qui était fermé, mais avec des amis, on part notamment à l'usine sidérurgique de Varsovie, Huta Warszawa, où les militaires sont intervenus à l'intérieur. Il n'y a pas de grève, il y a des petits rassemblements. On nous dit que dans certains ateliers, des ouvriers ont résisté, ont voulu faire grève. Mais par contre aussi, et ça c'est moi ça me semble plus inquiétant, c'est que des ouvriers ont désigné les meneurs de Solidarité pour dire aux militaires, vous pouvez les arrêter. Donc la situation est très mitigée à Varsovie même. Alors que à Katowice, par contre, les événements sont plus durs et plus dramatiques, puisqu'il y a intervention de la police dans les mines de Vouillec qui font plusieurs morts.
Et à Gdansk, plusieurs jours de guérilla, les partisans de Solidarnosc retranchés derrière les murs des chantiers navals avec des drapeaux polonais. Gdansk, allez, on va marquer une pause avant de voir ce qui s'est passé avec vous, Jacques Dimet. Après décembre 81, dans ce où, au moment du 25e anniversaire de Solidarnosc, beaucoup plus tard, en 2005, Lech Walesa, libre maintenant, glorieux, un peu narcissique aussi, en est venu à paraître à la tribune en compagnie de Jean-Michel Jarre, c'est vous dire. Et ce qu'on va entendre, c'est l'hymne de Solidarnosc, réaménagé par le dit Jarre, et qui est une coproduction à l'origine, Louis Liach, le catalan, et Kaczmarki, le poète polonais.
Następny utwór jest szczególnie związany z tym miejscem, jak pan Lech Wałęsa o nim wspomniał, z pewnością go rozpoznacie.
Thank you.
marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'était l'écho des célébrations de Solidarność en 2005. Retour maintenant à la Pologne en 1982, où l'état de guerre s'éternise. Waléza est encore en résidence, très surveillé. Ici, dans une restitution par le film de Wajda, l'homme du peuple, il est visité dans sa cellule par un prêtre.
Loué soit Jésus-Christ.
Toujours et à jamais.
J'ai peur que ce ne soit ma dernière visite, mon fils. On veut te punir. Ils veulent t'isoler de tout. Je supplie mon fils d'envoyer une lettre au général Jaruzelski pour qu'il te relâche. Les Polonais ont besoin de toi.
Je n'ai pas demandé à ce qu'il m'arrête. C'est non.
Il n'y a pas de honte à ça. Même le Saint-Père lui a écrit.
Non.
Une lettre de Danuta. Je t'ai aussi apporté l'encyclique du pape. Tu devrais la lire.
Pourquoi faire? Je suis d'accord sur tout avec le pape.
Ça me fait beaucoup de peine, mon fils, mais j'ai encore autre chose à te montrer. Qui est Lech Walesa? Un agent de la sûreté, un pharisien et une canaille. Depuis les événements tragiques de 70, il vend ses collègues, dont Anna Valentinovitch. La préparation du terrain pour la loi martiale a été son chef-d'œuvre. T'en fais pas, mon fils. Ce manifeste prétendument écrit par Solidarité est distribué par les agents de la sûreté, et pas seulement en Pologne. Même l'ambassadeur de Norvège l'a eu.
Dès 1982, bien avant aujourd'hui, donc Waléza est déjà soumis, Jacques Dimet, à cette pression. On l'accuse d'avoir eu des relations de collaboration avec la police, on l'accuse d'avoir préparé le terrain parce qu'il n'a pas suffisamment résisté à l'état de guerre. Alors vous, je le rappelle, vous étiez l'envoyé spécial permanent de l'Humanité. Je vois avec un sourire dans la barbe, oui, parce que j'allais vous poser une question désagréable. Un militant communiste, il est habitué à voir les dirigeants communistes utiliser les méthodes de délation, celles qui sont utilisées aujourd'hui d'ailleurs par le gouvernement polonais anticommuniste.
Habitué, on ne s'habitue jamais à ces choses-là. Hein.
Après, mais perdre les gens de réputation.
Perdre les gens de réputation, c'était une pratique qui avait cours effectivement dans les pays du socialisme réel, comme on dit, mais qui ont eu cours aussi dans d'autres parties du monde libre.
Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations contre Waléza? Il a d'ailleurs reconnu qu'il a eu des relations, disant « je les manipulais plus qu'il ne me manipulait, un jeune homme en 1970, sans défense. »
Non, moi je...
Que pouvait-il?
Sans défense, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il pensait certainement, c'était qu'au bout d'un moment, il fallait avoir des contacts avec la police politique, ou plutôt répondre aux sollicitations de la police politique, sans aller très loin. C'est ce qu'il a toujours dit. Mais cette attitude est un peu en contradiction avec ce que disait le corps. Le corps, c'est le comité de défense des ouvriers, dont Waléza était proche après les événements de 1976 et les émeutes à Radom et Ursus. Et le corps, qui était dirigé notamment par Adam Michnik et Jacek Kuron, avait une philosophie là-dessus très claire, c'est-à-dire qu'il ne fallait jamais se compromettre avec les services de sécurité.
Mais quand, franchissons les années, en 83, vous partez, vous, fin 83, les leaders de Solidarność sont libérés. Il faut négocier. D'autant que le pape y pousse. La dernière chose que vous ayez vue en Pologne, plus grand souvenir du journaliste de votre vie, le voyage de Jean-Paul II.
Oui, alors le voyage 83. De Jean-Paul II, qui était un voyage assez extraordinaire, parce qu'il a duré 15 jours, et 15 jours avec quantité de messes. En plus, je puis dire que je suis un des rares journalistes de l'Humanité à avoir été béni autant de fois par le pape, puisqu'il nous bénissait avant à chaque départ en avion. Et là, on s'est rendu compte aussi de la force, de ce que je disais par rapport à 1978, de la force du peuple polonais et de l'exigence de passer à autre chose, de dépasser en fait l'état de guerre.
Jean-Paul II pousse sans doute à la négociation. Gorbatchev est arrivé en 1985 à Moscou. Il fait une visite en 1988 à Varsovie que vous suivez. Et Jaruzelski décide d'une table ronde dont voici un récit bien senti par Bronislas Guéremec, le juif de Solidarnosc, l'homme de la rencontre des intellectuels et des ouvriers, le grand historien aussi.
Au cours de la table ronde, il y avait deux camps. Cette table n'était pas ronde et elle était divisée d'une par le sang, par la mémoire, par les convictions, partout. Mais de deux côtés, il y avait le sentiment qu'il faut se référer à l'avenir et à quelque chose qui est mal défini, mais que j'appellerais l'intérêt national. Rousseau aurait dit l'intérêt général. Il ne faut pas oublier nos morts, tués par la police. Il ne faut pas oublier tous ceux qui étaient en prison. Donc, qu'il ne faut pas oublier, mais qu'en même temps, qu'il faut savoir dépasser cette mémoire du mal faite par les régimes et chercher les solutions, comment en sortir. Et j'oserais dire que nous, les amateurs de la politique, nous qui n'avons jamais participé dans la politique et dans l'exercice du pouvoir, nous avons réussi de façon admirable.
Ben oui, c'est admirable cette table ronde, parce qu'au fond, la transition est assurée pacifiquement, le pire est évité. Jaruzelski accepte le principe d'élection, il les perd, évidemment. Il va être élu provisoirement par le Parlement d'opposition président pour continuer d'assurer le tuilage. Il va se retirer en décembre 90 avec un discours où il fait des excuses et demande pardon au peuple. Et voilà que depuis, de même que Waleza est dénoncé par certains, Jaruzelski n'a cessé d'être attaqué.
Oui, alors je pense que d'ailleurs il y a une similitude entre les deux hommes, même si leur histoire n'est évidemment pas la même entre Lech Wałęsa et Jaruzelski. Cette histoire, c'est pour eux, c'est le bien de la Pologne. En fait, ils sont très attachés, ils ont un sentiment national polonais tous les deux, ils sont attachés au bien de la Pologne, ils ne veulent pas une nouvelle division de la Pologne comme ça avait eu lieu plusieurs fois dans les siècles passés. Et ils sont nationalistes, et je dirais dans le bon sens du terme, si on peut dire. Nationalistes. Et donc, effectivement, ils sont tous les deux attaqués sur évidemment sur la répression des années 70 et d'autres choses, puisqu'on l'accuse aussi d'être un agent soviétique. Je parle de Jaruzelski.
Ah oui.
Au sein du comité du contre-espionnage, en fait de l'espionnage militaire soviétique, ce qu'il a toujours démenti. Et d'un autre côté, Waleza, qui est accusé d'avoir été un agent des services secrets communistes. En fait, je pense que les frères Kaczynski, notamment, en voulaient beaucoup à Waleza et à Jaruzelski d'avoir réussi à trouver un compromis qui permette à la Pologne de sortir de la crise politique et militaire.
Waleza et Jaruzelski se sont peu rencontrés. Waleza a fini par concéder. Les gens de cette génération, ils ont connu le meurtre, le mensonge, la guerre. Leur rôle a été très difficile. D'ailleurs, Jaruzelski a été déporté en URSS avec beaucoup d'autres Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Kaczynski, le frère jumeau Lech, quand il a été président de la République, lui a décerné une médaille, la Croix de Sibérie.
Oui, il lui a décerné la Croix de Sibérie, qu'il lui a retirée tout de suite quand il s'est aperçu qu'il lui avait donné, en disant qu'il avait une liste de récipiendaires et qu'il avait signé la liste sans regarder les noms qui étaient dessus.
Comme quoi les Kaczynski ne contrôlent pas tout de la bureaucratie de leur pays. Merci à vous, Jacques Dimet, directeur Merci. Et fondateur des éditions Helvétius, après avoir été correspondant de l'UMA à Varsovie. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Mathias Alléon à la technique et la préparation. C'était Ilinka Negulesco.